Nous sommes Acadie. Nous sommes oui 98.5 FM.
Aujourd'hui, je suis avec Caroline Fitzpatrick, donc enseignante et chercheuse à l'Université Sainte-Anne, qui réalise notamment une étude sur l'impact des écrans sur les jeunes enfants. Et puis là, avec le contexte sanitaire qui s'est imposé à la Nouvelle-Écosse et au monde, une étude plus particulièrement ciblée sur l'impact des écrans sur les jeunes enfants durant la période de la Covid-19. Caroline, vous venez de finir les entretiens et le recrutement justement du panel que vous allez analyser. Comment s'est passée un petit peu cette phase? Combien de personnes vous avez pu interviewer? Combien de familles vous avez pu rencontrer?
Donc, merci pour les questions. Donc, mon équipe et moi venons de terminer notre cueillette de données auprès de 330 familles néo-écossaises qui sont situés à peu près à travers la province, donc concentrés dans la région urbaine d'Halifax. Mais on a des participants également en bon nombre dans les régions plus rurales. Étant donné qu'on a réalisé notre collecte durant la crise de la COVID-19, malheureusement, on n'a pas été en mesure de faire, on voulait faire des évaluations et des activités en personne avec l'enfant. Tout ça a dû être partie remise et modifiée. Donc, on a été capable de recueillir des informations en ligne, par téléphone, donc tout à distance. Mais on y est quand même arrivé à notre échantillon visé de... On a un peu surpassé en arrivant à 330 familles.
C'est un échantillon qui est assez impressionnant. Les familles étaient plutôt réceptives à cet entretien et à ces questions?
Oui, on a eu un bon nombre d'intérêts. Ça a été un peu question de trouver la bonne stratégie pour recruter les familles. Et on s'est lancé dans des annonces radio. Et cela a semblé très, très bien fonctionner. Donc, de recruter les familles dans ce sens-là. On avait utilisé d'autres stratégies aussi, mais les annonces radio ont bien fonctionné. Et aussi pour encourager les parents à participer et pour les évidemment les remercier de leur temps, de leur précieuse collaboration, on leur donne un certificat cadeau d'une valeur de 50$ parce qu'on sait que c'est quand même de l'énergie, des efforts de participer. Donc, on essaie aussi d'offrir un incentive dans ce sens-là.
Et puis, on contribue un petit peu aussi à la recherche de ce que l'humanité produit pour les générations futures avec des objets d'études intéressants. Alors, est-ce qu'on peut en dire plus sur les questions que vous vous posiez avant, c'est-à-dire est-ce que quel type d'impact ont les écrans sur le jeune enfant? Là, par exemple, on sait que la moyenne d'âge que vous recherchiez, c'était entre 2 ans et demi et 4 ans. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans les conclusions que vous vous posiez ou les questions que vous vous posiez au début du recrutement de ces personnes?
Oui, donc on va essayer de répondre à plusieurs questions. D'une part, ce qu'on voulait faire avec cette étude-ci, c'est d'employer une mesure qui va un petit peu plus loin que juste demander aux parents combien de temps est-ce que les enfants passent avec les écrans. Donc, avec notre mesure, c'était capable non seulement de recueillir le temps d'écran, mais aussi les contenus spécifiques auxquels les enfants sont exposés. Donc, qu'est-ce que l'enfant regarde spécifiquement, sur quel type d'appareil, et aussi les contextes dans lesquels les enfants passent du temps avec les écrans. Donc, est-ce que l'enfant passe surtout du temps avec les écrans seuls, non supervisés, ou est-ce qu'il fait en contexte de co-écoute ou en interaction avec d'autres membres de la famille. Donc, ces informations-là, je pense, vont être très importantes pour mieux contextualiser et mieux cerner éventuellement la contribution du temps d'écran au développement des enfants.
Est-ce qu'il y a eu des surprises dans ces entretiens? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprises, que ce soit au niveau d'un entretien en particulier ou sur la généralité des entretiens? Est-ce que vous vous sentez à devoir remettre en question des postulats de départ que vous aviez, ou est-ce qu'au contraire, pour l'instant, ça a l'air de conforter ce que vous pensiez?
Bien, on en est vraiment juste au tout début de notre analyse. Pour l'instant, je voudrais dire que sans être surprise ou autre, je suis particulièrement heureuse qu'on en soit arrivé à réaliser notre taille d'échantillon. Donc, on a recruté le nombre de familles désirées et nos données sembleraient être de bonne qualité. La raison, je dis, pour laquelle c'est de bonne qualité, c'est que dans les grands questionnaires comme ça, c'est important de mettre des questions contrôle de qualité. Parce qu'on demande, par exemple, aux parents, juste pour vous assurer que vous êtes en train de bien lire les questions, s'il vous plaît, choisissez l'option 2. sur cette réponse-là. Et quand on a fait des vérifications pour le contrôle de qualité, semblerait que la grande majorité des parents ont pris les questionnaires au sérieux, semblent avoir répondu de façon diligente. Donc, cela est très encourageant. Et la grande majorité des familles ont aussi accepté d'être contactées pour un suivi. Donc, je pense que cela démontre vraiment l'excellent travail que mon équipe a fait dans comment ils ont interagi avec les parents et leur professionnalisme. Donc, c'est jusqu'à date des données qui sont assez encourageantes d'avoir obtenu cela.
Alors là, vous parlez de suivi vis-à-vis des familles aussi, parce que là, pour l'instant, vous avez calé le temps zéro de votre étude, de votre enquête. C'est vous avez recueilli des données. Le but, ça va être de voir un petit peu, en fonction des usages et de ce que les gens ont répondu, de voir ce que ça donne sur le développement de l'enfant à l'avenir, c'est ça?
Oui, exactement. Donc, on planifie un suivi avec les mêmes familles. D'ici l'hiver prochain ou le printemps prochain. Et à ce moment-là, on va encore poser des questions sur les habitudes médiatiques, mais on va aussi poser des questions sur différents aspects du développement, notamment le développement physique, comprend le développement de la motricité, le développement social et le développement cognitif des enfants. Donc, on va pouvoir évaluer dans quel contexte est-ce que l'usage des écrans est peut-être le plus nocif pour le développement, mais aussi quels sont les contextes dans lesquels l'usage des écrans est peut-être en mesure d'apporter certains bénéfices pour le développement. Et je pense que ça va être très important d'essayer de distinguer ces situations-là et de les nuancer pour vraiment pouvoir donner des recommandations plus détaillées. Un peu plus pratique, un peu plus nuancé aux parents.
Oui, parce que pour l'instant, les recommandations sont surtout en termes de quantité de temps ou de quantité d'usage ou avec qui, mais moins en termes de qualité, c'est-à-dire quel contenu les enfants regardent, consomment, ou en famille, etc. Donc là, ça va être un apport assez important en termes de qualité. Pour l'instant, les recommandations de l'OMS sont assez strictes et assez dures, mais elles parlent uniquement en termes de quantité de contenu regardé. Votre but, c'est d'apporter aussi un éclairage sur la qualité du contenu?
Oui, je pense que c'est important qu'on soit capable de mieux informer les parents et les professionnels de l'éducation et de la santé sur la qualité en termes des contenus, en termes du contexte d'usage. Donc, comment est-ce que l'enfant utilise les écrans? Est-ce qu'il les utilise comme une récompense ou est-ce qu'il les utilise lorsque on a besoin de distraire l'enfant? Donc, tous ces aspects-là d'usage, je pense, sont ultra importants. Bien entendu, je pense que c'est une bonne idée de respecter les grandes lignes directrices par rapport au temps d'écran, mais on a besoin d'être, je pense, un peu plus spécifique, un peu plus nuancé pour que ces recommandations-là soient servent mieux aux parents et aux professionnels de l'éducation et de la santé.
Et du coup, est-ce qu'on peut peut-être les rappeler, ces recommandations?
Absolument. Absolument. Donc, recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, on recommande pour les enfants de moins de 2 ans, zéro temps écran. Des exceptions peuvent être faites pour des vidéos chat, par exemple avec d'autres membres de la famille. Ensuite, pour les enfants de 2 à 5 ans, on recommande un maximum de 1 heure par jour de temps d'écran. Et pour les enfants 5 ans et plus, on recommande 2 heures maximum de temps d'écran.
Donc c'est des temps qui sont assez restreints quand même. Ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit juste avant, c'est que le but, c'est aussi de montrer quels aspects positifs l'écran peut aussi apporter sur le développement de l'enfant. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été étudié, ça, cet apport positif?
Oui, donc il y a certaines recherches qui démontrent que le temps d'écran, dans certaines conditions, peut être bénéfique. Donc, par exemple, lorsque l'enfant écoute une émission éducative avec le parent et qu'ils ont des discussions autour du contenu, qu'ils sont dans un contexte de co-écoute, où est-ce qu'il y a des questions et des échanges qui se produisent autour du contenu, cela semble favoriser certaines capacités cognitives, certaines capacités de communication, le développement langagier. Donc, Je pense que c'est là qu'il faut qu'on soit assez précis. C'est généralement certains contextes, certaines conditions qui peuvent avoir des effets positifs. Il faut juste être capable, je pense, de bien les identifier et bien les décrire.
Là, on en est au début de l'usage aussi des technologies par les jeunes enfants. C'est quelque chose qui a une dizaine d'années. On s'est rendu compte, je prends un exemple totalement à côté, mais par exemple, la cigarette, on s'est rendu compte seulement presque 100 ans après son développement et son acceptation par la population de son aspect nocif. Est-ce que là, selon vous, la recherche va suffisamment vite en comparaison, par exemple, de ce qu'était le développement du cancer du poumon dans le cadre de la cigarette? Est-ce que la recherche va suffisamment vite pour prévoir ce que va être peut-être les effets néfastes du numérique sur des temps d'écran sur les jeunes enfants?
C'est extrêmement intéressant le point que vous apportez. En effet, c'est quelque chose, cette comparaison avec la cigarette est ressortie lors du forum du ministère de la Santé du Québec. Ils ont tenu un forum sur le numérique en lien avec la santé des enfants et des jeunes adultes. Et c'était un peu question de dire, oui, mais maintenant, on fait pas grand-chose, on considère que c'est pas si nocif que ça, mais où est-ce qu'on va être dans 20 ans ou 30 ans? Donc, on aura vu des générations entières passer par l'ère numérique et le numérique à l'école, le numérique à la maison. Donc, je dirais que du côté, dans le domaine de la santé, on se préoccupe beaucoup des conséquences négatives sur la santé mentale, sur la santé physique. Tandis qu'il y a aussi du côté du domaine de l'éducation, on est plutôt intéressé avec quelles sont les applications, comment on peut utiliser cette technologie-là pour améliorer l'expérience étudiante. Ces deux approches qui sont possiblement pas sur la même page, je dirais, pour comment traiter le digital et le numérique, mais c'est des discussions qui doivent se développer et qui doivent avoir lieu.
Merci beaucoup Caroline Fitzpatrick. On a hâte de connaître vos conclusions, mais ça va demander encore un petit peu de travail. Selon vous, combien de temps il va vous falloir encore pour pouvoir sortir des conclusions?
J'espère cet automne pouvoir avoir des résultats préliminaires et commencer à préparer un article scientifique. Ensuite, une fois terminé notre deuxième suivi avec les parents, je dirais peut-être d'ici l'été prochain, pouvoir travailler sur un deuxième article scientifique.
C'est vraiment super. Merci beaucoup Caroline Fitzpatrick. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation et puis une bonne réussite dans l'exploitation de vos données. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Nous sommes Acadie. Nous sommes 98.5 FM.